Bonjour Franck Radzik.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Bienvenue.
Vous êtes compositeur et pianiste. C'est donc pour vous que nous avons choisi de diffuser cet extrait du premier. Enfin, c'est pas le premier, mais c'est l'album solo de Yakir Arbib, puisqu'il est pianiste lui-même. Vous avez fondé depuis une vingtaine d'années un trio, puisque vous travaillez avec Christian Boltanski et Jean Kalman à des spectacles d'un genre assez particulier. Par exemple, en 2016, vous aviez sur le chantier de la salle Favart, l'opéra comique étant alors en chantier, vous aviez créé Pleine Nuit et avec Christian Boltanski et Jean Kalman, vous avez réitéré cette année sur une commande de l'opéra comique au Centre Pompidou, puisque c'est dans le cadre de la rétrospective Christian Boltanski que se joue ce spectacle. Un spectacle donc intitulé Fausse, qui est une œuvre pour soprano, violoncelle solo, chœur, 12 violoncelles, 6 pianos, percussions et guitare électrique. Et on va parler de cette œuvre. Mais déjà, sur les spectacles que vous concevez avec vos deux compères, c'est quoi l'idée de vous réunir tous les trois? Quelqu'un qui s'occupe des lumières, quelqu'un qui est un artiste plasticien comme Christian Boltanski et un compositeur de musique comme vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble?
C'est-à-dire que c'est l'idée de première, ça serait de ne pas avoir ces trois choses-là dissociées. Et éventuellement d'avoir à la fin quelque chose qui soit ni un spectacle, ni une œuvre de musique, ni une installation, mais quelque chose qu'on n'arrive plus à définir. On rentrerait dans un lieu qui n'a pas vraiment de repères et qui n'est pas fait pour accueillir une installation, ni de la musique, et qui mélange tout ça, mais qui produit quelque chose qui, pour nous-mêmes, lisse les frontières entre les arts qu'on est censé représenter. Voilà, donc on essaie de se surprendre, en fait.
Les uns les autres.
Les uns les autres.
Je pense amis à la base qui avaient eu envie de travailler ensemble. Comment s'est passée cette collaboration au départ?
C'est une relation professionnelle, qui passe par le Festival d'automne dans un premier temps, où on essaie de faire des rencontres entre des sensibilités artistiques différentes et surtout des arts différents qui en général s'ignorent et sont totalement ignorants les uns des autres. Moi, je dois dire que aussi bien Christian que... Je pense que Christian connaissait pas du tout mon travail, et moi pas du tout le sien, au moment où on s'est rencontrés, et qu'il y a une sorte de rencontre forcée comme ça, en tout cas provoquée, qui, animalement, provoque ou pas, l'envie d'aller voir un peu plus loin ce que l'un et l'autre peuvent pas imaginer sans l'un et l'autre.
Vous avez envie de vous surprendre les uns les autres, dites-vous. Est-ce que vous vous êtes donné des règles?
Oui, de toute manière, c'est une charte. On n'en a pas 10 commandements, mais on en a au moins 3. C'est déjà bien. En tout cas, pour nos œuvres, en l'occurrence, c'était la première chose, et c'est des choses qui, pour la musique, posent des vrais problèmes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de début, pas de fin dans nos spectacles. Ce qui, pour un musicien qui est un art du temps, est compliqué, puisqu'effectivement, nous, on raisonne essentiellement par ce qui se produit, enfin, le silence, l'œuvre, et puis le silence. Donc, il y a quelque chose qui n'est plus balisé par cette chose-là, l'œuvre est prise en cours et on la restitue ensuite quand on finit. Les musiciens continuent à jouer, le public est parti depuis longtemps. Au début, on peut se dire que c'est une coquetterie éventuelle. Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la tension du musicien n'est plus de se dire « Ah oui, maintenant ça commence, le premier spectateur est à l'écoute ». Non, il doit capter l'écoute, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et il n'est pas protégé par un silence protocolaire de « Maintenant taisez-vous, je vais jouer ». C'est très différent des autres. Et quant à la fin, ça construit plus l'attention vers « attention, maintenant ça va être fini, concentrez-vous, les deux dernières secondes sont capitales ». Donc on ne construit pas cette forme de cette manière.
Je vous arrête sur la première règle. Qu'est-ce que ça change?
Pour les musiciens?
Pour les musiciens d'un côté, pour le spectateur de l'autre.
Pour les musiciens, ça ne les protège pas. Ça les protège pas d'une certitude qu'ils vont être entendus et qu'ils vont produire quelque chose dans lequel ils maîtrisent l'auditeur.
Donc ça les met en danger.
Ça les met vraiment en danger, profondément en danger. Pour le spectateur, ça lui donne un non-sens. Il n'a plus de possibilité de se repérer. Il ne sait plus si jamais la chose a commencé comme ça, ou si d'ailleurs il ne sait même pas si jamais il peut construire une histoire. Prenons le cas d'une histoire. Si jamais j'écris une histoire et que je vous donne tout de suite la fin, vous savez, a priori, est-ce que cette fin devient vraiment la fin? Vous considérez que c'est un début. Vous considérez qu'en fait, ça commence par cette chose-là. Il est possible que ce soit la fin de l'histoire. Donc, ça vous donne plus non plus une certitude d'avoir bien compris ce qu'on vous dit.
Donc danger d'un côté, déstabilisation ou incertitude de l'autre.
Oui, c'est une déstabilisation totale cette règle. L'autre règle fondamentale, c'est ne pas être devant quelque chose, mais dans quelque chose. Bon, c'est évident que ça, c'est très lié au parcours des expositions, puisque on est devant un tableau, on n'est pas dans un tableau, enfin je crois, et on peut aussi construire de son parcours dans une exposition qu'on ne construit pas dans une symphonie. Je pense que le musicien n'intervertit pas les mouvements en fonction du désir du spectateur. Enfin, on pourrait le faire, mais ça n'aurait pas énormément de sens. Il est en train d'accepter un parcours obligé qu'est le temps. Évidemment, l'espace que vous construisez comme ça, dans la musique, pose aussi certaines difficultés, mais fait rentrer la notion d'improvisation, enfin, fait rentrer des notions en musique intéressantes aussi, et qui peuvent permettre de faire que la forme n'est pas dite tout de suite. Voilà. Donc vous avez une sorte de parcours à l'intérieur de la musique, parce que vous n'êtes pas devant elle. La troisième règle, c'est plus liée finalement à l'opéra, c'est pas de ne pas raconter une histoire, mais des histoires, et en fait une infinité d'histoires, et peut-être même de pas raconter d'histoires. Enfin, ça c'est plus difficile. Mais enfin, le fait est que pas une histoire veut dire que quand on rentre dans ce parking, il n'y a pas de livret donné qui fait que vous devriez être informé de quelque chose pour comprendre quelque chose. Vous avez des angles d'écoute et je ne peux pas maîtriser ce que vous allez vous raconter de ce que vous entendez. Évidemment qu'il y a un livret. Ce livret, c'est le lieu. Ce livret, c'est la réaction que nous trois avons au lieu. Mais déjà, nos trois réactions au lieu sont opposées, différentes et peut-être même contestataires. Et elles existent pourtant en même temps dans le même lieu. Donc c'est cette force-là qui fait que le public, quelle que soit son imagination, peut s'y retrouver dans ce lieu avec ses lumières, cette musique et cet espace.
Parlons-en de ce lieu, Franck Krawczyk, parce que c'est quand même un drôle d'endroit pour un concert. Le lieu, c'est pas la première fois que vous travaillez avec vos deux compères dans des lieux particuliers. Vous avez fait quand même dans des opéras, des théâtres, mais c'est vrai que vous avez, par exemple, travaillé à la piscine sous le Rhône à Lyon, dans des garages, et justement là, il s'agit donc d'un parking, le parking qui est situé au niveau -1, sous le centre donc Pompidou, à Paris. C'est une drôle d'idée d'être dans un parking. Alors vous dites, le livret c'est le lieu, mais un parking, je pense, et là je m'adresse à vous qui êtes compositeur, donc qui travaillez avec l'oreille, un parking ça a une chambre d'écoute très particulière. Donc je comprends bien que vous aimez beaucoup les défis et les prises de risques, mais là vous allez loin quand même.
Oui, mais tout dépend, en fait, je vais loin, tout dépend de ce qu'on cherche. C'est-à-dire, moi je cherche pas à restituer une idée platonicienne du beau son. C'est-à-dire, je n'ai pas, si c'était ça, je vais dans une salle de concert, et franchement, là vous avez raison, je serais bien idiot de m'embarrasser d'un parking. Mais si le fait que des musiciens cherchent, dans une tension, de trouver un son juste dans un espace, provoque quelque chose qui, pour moi, m'intéresse davantage que quelque chose qui est déjà fait par un son fabriqué autour d'eux qui s'appelle une acoustique de salle, non, ça devient intéressant, parce que là, vous êtes obligé d'aller plonger l'instrumentiste dans une recherche folle. Il y a des instrumentistes qui savent pas faire sonner un lieu. Il y a même des instrumentistes dans des acoustiques idéales qui seront pas à la hauteur de l'acoustique. Mais en l'occurrence, les musiciens que je vais chercher sont des musiciens qui sont, pour moi, c'est la fascination. Je veux dire, je pense là, en l'occurrence, à Sonia qui est au violoncelle.
Sonia
Vider-Atherton, qui est vraiment, capable. Vous la mettez dans n'importe quelle condition, et ça me fait réfléchir sur les musiciens. Son imagination sonore est telle que quel que soit le lieu, elle vous le fera sonner. Elle vous le fera sonner. Il n'y a rien à faire. Vous n'échapperez pas à son imagination dans le lieu. Bon, c'est une capacité particulière. On voit bien les gens qui, quand ils prennent la parole, font que quelqu'un l'écoute ou pas. Quel que soit l'endroit. Et souvent, on est, même dans les gares maintenant, on s'en rend compte. Il y a des pianistes qu'on écoute, des pianistes qu'on n'écoute pas. Et là, tous les musiciens que j'ai ont cette capacité, ils sont intéressés par ça, à essayer de capter l'attention d'un lieu. Et du coup, je crois que le miracle, en tout cas pour moi, de cette œuvre et de ce qu'on, le cœur aussi, je vois que le cœur Accentus, j'étais très intrigué de comment ils allaient faire. Ils sont tous dans une position cœur. Ils sont totalement dispersés avec des fois des distances de 100 mètres pour un cœur homophone. Mais ils arrivent à se trouver dans un lieu qui n'est pas prévu pour.
D'ailleurs, vous avez pensé les intervalles en fonction des distances.
Oui,
c'est... Alors ça, il faut nous expliquer.
Alors c'est peut-être un peu.
C'est un peu technique, cela.
Oui, mais vous pouvez assez facilement. D'ailleurs, c'est pas.
Et c'est intéressant parce que quand on y va, si on a la chance de pouvoir y aller, du coup, on va penser à ça.
Oui, voilà. Pour ceux qui ont fait un peu de solfège, il y a des intervalles plus ou moins grands. On appelle ça des secondes, des tierces. Là, je le fais d'une manière croissante. Seconde, tierce, ou même unisson d'ailleurs. Seconde, tierce, et puis ensuite quarte, quinte, sixte, septième, octave, etc. On a donc ces différentes distances entre les notes. Si vous faites une conversion en mètres, vous pouvez sur 100 mètres considérer que, par exemple, l'octave serait l'intervalle qui serait de 100 mètres, et puis vous, inversement, vous diminuez, septième, vous enlevez 10 mètres. Bon, donc je peux essayer de raisonner comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'inverse. C'est par exemple qu'on prenait un demi-ton, c'est-à-dire l'intervalle a priori le plus petit discernable pour l'oreille, et vous lui mettez 100 mètres de distance. À ce moment-là, vous avez quelque chose d'infiniment petit qui devient dans l'espace infiniment grand et provoque une fracture de l'intervalle. L'intervalle n'est plus entendu dans ce qu'il a d'infiniment petit, mais d'infiniment grand à l'intérieur de lui.
On entend derrière vous les chœurs, hein, Accentus. Alors, c'est un son qui a été pris jeudi soir lors de la générale, donc un peu particulier, ça n'est pas exactement ce que les auditeurs, spectateurs pourront entendre s'ils y vont aujourd'hui ou demain, ou s'ils y sont allés hier soir, puisque le public n'est pas le même, et puis le son n'est pas tout à fait le même. Mais comment répondent les musiciens les uns avec les autres, dispersés? C'est un très grand parking, hein, il faut quand même dire. Les musiciens sont dispersés dans le parking, qui a un violoncelle par là, un pianiste par là, il y a des percussions, il y a des guitares électriques qui sont vraiment réparties dans le parking. Ils se répondent à l'oreille avec ce que vous dites en fonction des distances. Ils sont placés à des endroits stratégiques pour vous, Franck Rémy.
Oui, pour moi, le principal miracle, c'est qu'il n'y a pas de chef. En tout cas, pas de.
Sonia Vider-Atherton est quand même au centre du parking, comme si c'est elle qui donne le là, d'une
certaine
façon.
C'est tout à fait vrai, mais c'est pas au sens d'avoir quelqu'un devant vous qui organise ou qui vous déresponsabilise, entre guillemets, de votre prise de parole. La personne qui est à 100 mètres d'elle ne la voit pas. Donc, c'est un fil d'Ariane. Sonia est une Ariane. Si on doit passer par son filtre, en tout cas par son jeu. C'est d'ailleurs épuisant pour elle parce qu'elle les a tous dans l'archet en fait, mais ça passe par l'oreille et c'est essentiellement Louis le chef d'orchestre de cette histoire. Mais l'espace tel que vous l'avez défini, vous avez raison, il est structuré mentalement en fait. Il y a Karen Wurch, qui est finalement le personnage opératique puisque c'est celle qui a les mots et la seule qui a véritablement les mots.
Elle
qui chante soprano et qui est déclinée par le chœur comme le monde des voix. Et ensuite, vous avez Sonia qui est Vider-Atherton qui, avec son violoncelle, qui pour beaucoup de gens, c'est à peu près l'analogie de la voix humaine. Le violoncelle est celui qui couvre le maximum d'ambitus pour pouvoir contenir toutes les voix humaines aussi. Donc, c'est une sorte d'autre personnage dramatique, mais qui a 13 violoncelles. Et donc, c'est son monde. Et finalement, vous avez les voix et les violoncelles qui sont réellement deux mondes comme ça. Et puis, entourer ça, vous avez des pianos qui sont finalement le lieu. Les pianos et deux percussionnistes qui n'ont pas de percussion, mais qui jouent du lieu, qui frappent le lieu, sur les tuyaux de chauffage, sur toutes les barrières, tout ce qu'ils trouvent. Ils ont registré le lieu pour en faire un instrument sonnant. Et les percussions, les guitares électriques et les pianos sont le monde industriel, c'est-à-dire le monde technique du lieu, les meubles, ce qui reste, ce qui ne peut pas bouger. Le piano, vraiment, le mobilier même, pour moi, c'est des pianos droits, et c'est ce monde technique, véritablement industriel pour moi, dur, âpre. Et c'est segmenté comme ça. Effectivement, ils communiquent de cette manière, c'est-à-dire qu'effectivement, les choses s'enchaînent entre la technique, entre le monde de la technique, le monde du rêve, le monde de la voix. Tout ça s'organise comme une société, et finalement, ils essaient de retrouver leur chemin. Alors évidemment, tout ça, on l'a travaillé à 10 mètres les uns des autres. On l'a travaillé dans un contexte, dans un premier temps, très proche. Et puis, on s'est écarté, jusqu'à investir le lieu, et finalement, au bout de, l'homme s'adapte, au bout de quelques temps de travail, peut-être même 2 ou 3 jours dans le lieu, on retrouve les repères qu'on avait à 10 mètres.
Si, qui est là,
La voix de Karen Wurch avec en fond le violoncelle de Sonia Wieder-Atherton, Frank Krasik. C'est étonnant parce que quand, pour l'avoir vécu et pour essayer de donner une idée de ce que ça peut être aux auditeurs qui nous entendent, Karen Wurch, par exemple, elle déambule au milieu du public. Comme les choristes qui sont disposés mais qu'on ne repère pas, comme les musiciens, on les voit avec leur piano ou leur violoncelle, mais les chanteurs et en particulier Karen Wurch marchent au milieu de, vraiment disséminés dans l'espace et déambulent à côté du public. Vous disiez tout à l'heure, on est dedans, en fait on est presque comme dans la fosse d'un théâtre, d'où le titre sans doute fosse. Est-ce que ça n'est pas une gêne pour les musiciens? Je pense là plus aux musiciens qu'aux chanteurs d'ailleurs, parce que les chanteurs sont plus mobiles. Mais les musiciens, en fait, ils ont les gens derrière eux parfois qui regardent la partition derrière, sur leur épaule. Donc c'est sans doute un peu compliqué. Alors vous cherchez une prise de risque pour eux. Comment eux réagissent, les musiciens?
C'est effectivement pour eux particulièrement compliqué. Mais ça, c'est intéressant. Parce que ça change tous les rapports qu'on peut avoir à la pratique de la musique. Par exemple, on n'est plus dans un rapport de séduction, on est dans un rapport d'ignorance. Essayez au contraire d'ignorer le public, ce qui est complètement... c'est pas ce qu'on vous conseille en principe, puisque vous devez le capter autrement. Mais vous devez le capter par, encore une fois, la production que vous faites d'un son juste dans un espace. Et en fait, ça vous interroge sur... probablement, et c'est ce que je reçois d'eux. Je reçois vraiment ce commentaire. Ça les fait s'interroger sur la vérité de leur pratique instrumentale et de la production qu'ils ont, tout simplement comme dans leur chambre. Pourquoi ils font ça? Et c'est très émouvant parce que ça donne effectivement une fragilité et une nudité au son, une vérité au son qui n'est plus protégée, encore une fois, d'une représentation normale qu'ils ont, de l'écoute qu'ils ont l'habitude d'obtenir. Voilà, ça me... Donc finalement, le dérangement, ils l'acceptent comme une épreuve de vérité pour eux-mêmes. Et ça, c'est... Alors, j'incite pas le public à les éprouver trop, parce que effectivement, il y a des moments où l'épreuve n'est pas intéressante. Quand si vous prenez des photos à un centimètre du visage d'une chanteuse, où vous la perturbez réellement, vous la perturbez parce que vous rentrez pas dans son jeu. Il y a quand même un minimum de relations à établir avec le lieu aussi et avec le respect qu'on a d'un lieu, mais ça dit aussi beaucoup du public.
Oui, ça change aussi sans doute le rapport où ça assoit un rapport particulier.
Exactement.
Entre le public et le musicien.
Et pour eux, obtenir ce petit moment où le public se comporte avec, dans un parking avec d'un seul coup un drôle de respect est une victoire sans nom.
Frank Krasik, comment avez-vous pensé cette musique qui, en fait, conçue en continu par cycle de 50 minutes, ça n'est pas une œuvre, vous dites, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais malgré tout, il y a 10 modules ou 10 dizaines de parties qui s'enchaînent, qui sont séparées par des gongs ou des sons de cloche, pour qu'on s'y retrouve, mais qui constitue un ensemble de 50 minutes joué 3 fois, là, en l'occurrence, pendant 3 jours.
Oui, de toute manière, je suis dedans, donc c'est très difficile pour moi d'y voir encore tout à fait clair. J'ai été bouleversé par les... D'abord, je trouve que c'est bouleversant d'avoir une équipe de musiciens, de jeunes musiciens qui viennent de partout, qui viennent et qui donnent à cette œuvre-là quelque chose qui me vraiment dépasse. En ce sens où il y a une partie, vous dites la partition, elle est certainement écrite, mais il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas et qui sont dans la main. Alors là, je pense à évidemment Nicolas Worms qui a constitué une équipe. Je peux pas évidemment citer tous les noms, mais c'est étonnant de voir arriver des univers aujourd'hui qui viennent aussi bien du rock, du jazz. Et tout à l'heure, vous faisiez écouter un musicien de cette nature et qui s'empare de cette œuvre avec un son et avec une improvisation sur le lieu que je ne peux pas imaginer.
Bon, c'est une œuvre vivante, au fond.
Ah, mais moi, je...
Organique.
Elle m'a dépassé. Elle n'est pas dans ma main.
Allez, on vous retrouve dans 2 minutes, Frank Krasik. Et on retrouve notre invité de ce matin, Frank Krasik, compositeur et pianiste, qui nous explique, qui nous raconte comment il a créé avec Christian Boltanski et Jean Kalman cette nouvelle œuvre fausse présentée dans un parking, pas n'importe lequel, le parking du Centre Pompidou à Paris, où actuellement est présentée une rétrospective de l'œuvre de Christian Boltanski et ce spectacle concert d'un genre un peu particulier et pensé en lien avec l'exposition. D'ailleurs, quand le public va voir le spectacle Fausse. Il obtient des places pour pouvoir, des billets pour pouvoir aller voir l'exposition. On va d'ailleurs entendre Franck Ravzik, Christian Boltanski présenter d'une certaine façon Fausse à sa façon. Écoutez-le.
Fausse, c'est quelque chose qui est un petit peu entre le spectacle musical classique et la visite d'une exposition. Et dans ce lieu d'errance, parce que là ça va vraiment être un lieu d'errance, il y a des événements qui se créent, qui sont principalement des événements musicaux, puisque là il s'agit d'un opéra, mais également des événements visuels, et c'est un peu le lieu des pas perdus, le lieu d'enfermement. Et ça m'a intéressé de travailler dans ce lieu immense et qui n'a jamais naturellement eu de spectacle à l'intérieur. D'une manière générale, le travail que j'ai pu faire dans le spectacle et le spectacle musical m'a sûrement beaucoup influencé dans mon art. D'abord, l'idée qui est pour moi très belle, on se donne beaucoup de peine pour faire un spectacle musical ou un opéra. Et puis il y a 5 représentations et c'est fini. Et seuls ceux qui l'ont vu, et ceux qui ne l'ont pas vu ne le verront plus. Et donc cette idée de la fragilité du spectacle vivant m'a beaucoup intéressé, et également le fait que je recherche quelque chose autour de l'art total, et dans cette exposition il y a des sons, il y a des odeurs, il y a donc toutes choses que je peux retrouver quand je travaille avec mes amis dans ces spectacles. Ce que je trouve toujours merveilleux, c'est les sentiments que la musique inspire et qui est toujours une chose surprenante pour moi, parce qu'on parle de quelque chose qui est généralement abstraite et pourtant ça nous fait pleurer ou rire. Et puis il y a le fait d'être la musique nous entoure, on est pris totalement dans la musique.
Voilà l'artiste Christian Boltanski qui reprend avec ses mots ce que vous nous avez expliqué, Franck Ravzik, pour ce spectacle Fausse. La fragilité du spectacle vivant, on le ressent avec Fausse, parce que c'est 3 jours seulement. Hein.
Oui, et puis ça pose une autre question, c'est comment l'enregistrer, vous le voyez bien. Moi j'aime bien l'idée que les gens d'ailleurs avec leur portable enregistrent, mais ils sont toujours très déçus. Ils sont là, mais ils disent « mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu ». Donc.
Mais parce que c'est une expérience à vivre.
Ben oui.
Mais c'est quelque chose d'assez général chez vous, je crois, c'est que vous pensez le concert comme une expérience à partager, plus que comme une représentation. Je dis ça parce que vous êtes aussi le directeur musical d'une association, Plein Jour, qui cherche à sortir la musique justement des lieux de concert, à conquérir un autre public, et vous allez dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des établissements scolaires. L'idée, c'est de la vivre, d'être dedans, quoi, comme vous le dites, plutôt que
devant. Oui, une phrase qui me hante depuis longtemps, et j'ai oublié de qui elle est, donc je finis par croire qu'elle est de moi. C'est que pour moi, la musique, enfin, l'œuvre, ça ne peut pas être ce qu'on a l'habitude de penser, c'est-à-dire uniquement le produit de l'imagination d'un seul. C'est le produit de l'imagination du spectateur, de l'interprète et du compositeur, si on parle en musique. Et c'est pour ça que ce trio, donc Plein Jour, cette œuvre Fausse, elle était composée à trois. Elle est composée avec des discussions infernales qui se renvoient avec des imaginaires qui n'ont rien à voir les uns les autres et qui finissent par concocter quelque chose qui ne peut pas être produit par l'un d'entre nous.
Et c'est pensé à trois, puis pensé avec un certain nombre de spectateurs qui viennent.
Je sais que oui, mais c'est vrai. Mais
partager l'expérience.
Effectivement, et donc la subjectivité. Bon, on peut très bien dire oui, mais à la fin, il y a toujours quelqu'un qui catalyse. C'est vrai, il y a l'écriture qui catalyse tout ça. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est moi qui décide d'écrire ceci ou comme cela. Ça, c'est une très grande différence avec les arts plastiques, c'est qu'il y a un écrit, quelle que soit la fragilité du spectacle vivant. Moi, il y a une partition qui reste et qui peut être réinterprétée d'une manière, on va dire, la plus précise possible. Mais ça change rien. N'importe quel interprète qui va s'en emparer, et là, on a de quoi faire. On a des interprètes qui sont très créatifs. Alors, ils vont porter l'œuvre là où l'imaginaire que j'ai eu ne peut pas aller.
On a beaucoup parlé au cours de cet entretien, Franck Ravzik, de la violoncelliste Sonia Vider-Atherton qui participe à Fausse. Vous avez avec elle un long compagnonnage. Vous avez créé par exemple un disque avec elle qui s'intitule Chant d'Est. On a choisi Les Jeux d'enfants, le troisième mouvement, pour terminer cet entretien avec au violoncelle Sonia Vider-Atherton. Thank you. Un grand merci à vous, Franck Kravzik, d'être venu ce matin. Fosse, c'est donc dans le parking du Centre Pompidou à Paris, avec notamment la soprano Karen Wurch, au violoncelle Sonia Wider-Atherton et le chœur Accentus. C'est aujourd'hui de 19h à 22h par cycle de 50 minutes. On entre, on sort comme on veut. C'est demain de 17h à 20h et je rappelle que les places donnent accès à l'exposition Boltanski Faire son temps qui, elle, dure jusqu'au 16 mars. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu ce matin.